L'Évangile de Luc, au chapitre 12 et verset 24. Et quand le Seigneur nous envoie, il nous a donné un seul ordre, aller prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle. Et quand on est un peu perdu dans ce monde, il faut revenir à l'essentiel. Tout à l'heure, j'entendais un frère qui disait dans sa prière, « Dessine-moi un avenir, je vais vous parler de cet avenir-là, de ces temps qui arrivent, ce qui arrive bientôt. » Luc, chapitre 12, verset 54. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. » Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci ? Alors vous vous doutez bien qu'au travers de ce petit texte, je ne vais pas vous parler de la météo. Tout à l'heure, on en a parlé. Les hommes essayent de prévoir. Ils calent leur vie en fonction de la météo. Mais il faudrait discerner dans quel temps nous sommes. Alors c'est sûr, on peut toujours prévoir les choses qui vont arriver dans quelques jours. Avec leur puissance ordinateur, maintenant, c'est quelques jours en avant. Jusqu'à une dizaine de jours, mais ils ne peuvent pas prévoir au-delà. Par contre, les temps dans lesquels nous sommes, eux, ils nous parlent. Et nous sommes réellement dans les derniers temps. Et non, on va le voir ensemble, il y a beaucoup de choses qui sont là. Et c'est vrai que le peuple juif avait, concernant la première venue de leur Messie, de Jésus, avait plus de 330 prophéties pour discerner dans quel temps ils étaient. Alors c'était des temps qui pouvaient leur paraître curieux, il y avait l'occupation romaine, il y avait toutes ces choses autour d'eux, ils étaient accablés, les impôts, tout. Et puis ils ne comprenaient pas, et pourtant ils avaient des éléments. Quand en fait Hérode demande, j'irai au scribe, mais où doit naître le Messie ? Ils savent répondre, à Bethléem. De quelle tribu ? De Juda. Tout cela, ils le savaient, ils les avaient ces éléments-là, mais ils n'ont pas discerné dans quel temps ils étaient. Le Messie était là, et ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose de troublant parce qu'il fallait qu'ils reconnaissent aussi, et la Bible en parle, que le Messie viendrait une première fois en tant que serviteur avant de revenir triomphant en tant que roi. Et ça, c'est vrai que c'est le chapitre d'Ésaïe 53 qui nous le décrit le mieux. Les Juifs essayent de se l'appliquer au peuple juif, mais ça n'a pas de sens. On voit bien que c'est une personne qui est concernée. On voit bien que ça concerne le Messie souffrant, le Messie crucifié, le Messie qui donne sa vie pour les péchés de son peuple. Et bien sûr, je vais vous parler de ce qui nous concerne, nous, le Seigneur revient. Il est à la porte, il revient bientôt. Alors pourquoi parler du retour du Seigneur ? C'est vrai qu'on en entend assez peu parler, très très peu de prédications. C'est curieux, c'est très curieux parce que ça nous concerne, c'est les choses qui arrivent bientôt, c'est les choses pour lesquelles Jésus est mort. Il est venu pour donner sa vie, mais c'est pour nous sauver, pour nous avoir avec lui dans le ciel de gloire. Ce n'est pas pour nous laisser là sur la terre. Non, non, c'est pour nous avoir avec lui. Il nous veut avec lui. Parfois, dans quelques prières, quelques prophéties, on entend « Seigneur, reviens, prépare-toi, veille, ta lampe, allume, Seigneur. » Toutes ces choses-là qui sont là comme des petits reflets. Tous les dimanches aussi, nous en parlons. Nous annonçons la mort du Seigneur au travers de ce repas jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Nous aurons ces choses-là jusqu'à ce qu'ils viennent. Je ne boirai plus du vin de la... jusqu'à ce que j'en boive du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Toutes ces choses doivent nous parler, nous enseigner. Et c'est pourtant ce retour du Seigneur qui devrait être l'objet de toutes nos conversations, qui devrait être là l'objet de toutes nos pensées. C'est un magnifique moyen de salut. Je me rappelle du témoignage de mon beau-frère. Il était tout jeune enfant, il avait 10-12 ans. Pierrick, là, et puis ses parents étaient convertis, ses frères et sœurs étaient convertis, et puis lui, à 10-12 ans, bah oui, bien sûr, il écoutait les choses de Dieu, il entendait parler régulièrement de ce retour du Seigneur qui revient, et tout ça. Et puis, bon, on a toujours le temps, hein, quand on est jeune, on a toujours le temps, on attend, en se disant qu'on a le temps, mais le temps arrive. Et puis, ma belle-mère, elle, pensait de toute façon qu'elle ne verrait pas ses enfants grandir. Parce qu'avec tout ce qu'elle voyait dans le monde, le Seigneur serait revenu avant, et pourtant, maintenant, ils ont tous 40, 50 ans. Et ils étaient partis faire des courses dans une grande surface, et ce qui arrive parfois avec les enfants, ils restent sur un rayon, on se perd de vue, il est un petit peu perdu, il reva à la caisse centrale, les parents ne sont pas là, il cherche un petit peu, les parents ne sont pas là. Il retourne à la maison un petit peu paniqué, je dois le dire, c'est son témoignage. Et puis il arrive, la porte fermée. Et là, il s'est assis sur les marches de la maison en se disant, ça y est, le Seigneur est revenu et il m'a laissé. Et ça a été pour lui un moyen de salut, c'est comme ça qu'il s'est converti, parce qu'il a réalisé que le Seigneur pouvait revenir à n'importe quel moment, et c'était, il fallait qu'il soit prêt, lui. Et c'est comme ça qu'il a donné son cœur au Seigneur, qu'il s'est engagé dans les eaux du baptême, qu'il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il est né d'eau et d'esprit, afin de pouvoir partir avec le Seigneur. Alors, pourquoi aussi parler du retour du Seigneur ? Par exemple, la doctrine du baptême dans l'Écriture, c'est quelques dizaines de versets. Baptême d'eau. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est aussi quelques dizaines de versets. Pourtant, c'est des choses fondamentales, importantes, que l'on voit chaque jour, chaque semaine, que l'on considère, qui sont importantes pour nos vies et tout ça. C'est notre salut même. Et le second retour du Seigneur, il y a quand même 1400 versets dans la Bible. Pour le second, hein, pas le premier. Hein. Là, les prophéties concernant le premier, les 330, elles sont définitivement faites, accomplies. Il a tout accompli. Quand il l'a dit à la croix, tout est accompli. On passe à autre chose. 1400 versets entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et rien que dans le Nouveau Testament, il y a 347 versets. Rendez-vous compte. Un verset tous les 25 parle de son retour, de son avènement, du retour du Seigneur. Je reviens, veillez et priez, je suis à la porte. Voilà. Un verset tous les 25, c'est-à-dire presque un par chapitre. Et on va le voir dans ce que l'on lira tout à l'heure. Si Dieu se répète ainsi, je pense qu'il a à cœur de nous tenir prêts, de tenir son Église en éveil. Si Dieu se répète, c'est que c'est important. Il le fait rarement pour rien. On s'aperçoit que Dieu parle effectivement tranquillement. Il le fait avec douceur, dans le calme, dans la confiance, dans la tranquillité. Il ne parle pas au travers du feu, hein, comme disait Samuel, au travers du tremblement de terre, au travers d'un vent violent. Non, c'est un murmure doux et léger. La nature nous en parle aussi, les fleurs et tout ça, les arbres poussent tranquillement, il n'y a pas de cri, mais pour autant Dieu parle, Dieu fait son œuvre. Et pourquoi il annonce un tel événement ? C'est parce que pour lui, ça a toute son importance. Jésus, c'est son Fils unique, le seul, l'unique, son bien-aimé. Et en fait, Jésus est venu il y a bientôt 2000 ans, pour venir chercher et préparer sa fiancée, son épouse. Vous imaginez l'importance. Dans une famille, quand il y a un mariage, c'est important. On s'y prépare, on prend le temps. Il y a des réjouissances, il y a des invitations. Dernièrement, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, il y a eu un mariage royal à Londres. Qui dans le monde n'en a pas entendu parler ? Il paraît qu'il y avait 2 milliards de téléspectateurs. Un homme sur trois. Il paraît qu'il n'y avait que 1900 invités. Beaucoup moins. Et Dieu, de la même façon, nous a envoyé les invitations pour ce mariage royal avec son fils il y a bientôt 2000 ans. Mais Dieu ne fait pas les choses comme les hommes. Lui, il a envoyé des invitations à tout le monde. Tout le monde a reçu une invitation. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas reçu une invitation de Dieu. Mais il y a des hommes qui ont reçu l'enveloppe, celle-là peut-être, et qui ne l'ont pas ouverte. Il y a des hommes qui ont été touchés dans leur cœur, dans leur corps, qui ont été guéris, mais ils n'ont pas été plus loin. Et cette invitation pour ce mariage royal, pour ces noces de l'agneau, elles ont dans le cœur de Dieu une importance particulière. Et on le voit dans le mariage juif traditionnel, il y a tout un sens. Et on voit que le Seigneur nous répète ces choses-là pour bien nous montrer tout le sens qu'il apporte à ce mariage. C'est vraiment son épouse pour lui, c'est toute sa vie. C'est sa vie. C'est pour cela qu'il est venu. C'est pour cela qu'il est mort. C'est pour cela qu'il a donné sa vie. Dans le mariage juif, les deux familles se rencontrent pour les fiançailles, hein, et puis on fait des échanges de cadeaux, ça se fait, hein, des échanges de dons. Nous, on donne notre cœur et le Seigneur, lui, est monté au ciel pour nous faire des dons. Il a fait des dons aux hommes avec le Saint-Esprit. Le bien-aimé, après, s'en va. Il va préparer une place. Ça ne vous rappelle rien ? Je vais vous préparer une place. Il va préparer, en fait, la future demeure. Il va préparer le nouveau foyer, vu que ça va être une nouvelle famille. Et puis après, au bout d'un certain temps, il revient en cortège, entouré de ses amis, les amis de l'époux, ceux qui étaient avant qu'il vienne pour chercher son église. Le dernier a été Jean-Baptiste, dernier ami de l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais les amis de l'époux, eux, se réjouissent. Et puis, quand il arrive de nuit avec les flambeaux, ce cortège, il y a dans le village un cri. Voici l'époux. C'est-à-dire que les villageois annoncent ce cortège qui rentre dans le village. Voici l'époux, voici l'époux. Et toutes ces choses, on les retrouve dans l'Écriture. C'est exactement comme ça que ça se passe. Il vient chercher sa bien-aimée. Alors la bien-aimée, elle sort de sa maison, de la maison de sa famille, de ses parents, avec un voile. Personne ne la voit. Le bien-aimé l'emmène avec ses amis. Et ils vont en fait dans la salle des noces. Et puis là, le bien-aimé met sa fiancée, son épouse, dans sa chambre. Et elle finit de se préparer. Et il se réjouit avec ses amis pendant ce temps-là. Et tout d'un coup, dans le milieu de la noce, il fait sortir sa bien-aimée. Il la présente pure, sans tache, à tout le monde. C'est extraordinaire comment Jésus nous a décrit au travers de multiples textes dans l'Évangile cet amour qu'il a pour nous, cet amour qu'il a pour son Église, pour son épouse. Alors bien sûr, pour le retour du Seigneur, on aurait pu parler des signes. Je vous invite à relire après chez vous tranquillement les chapitres 24 de Matthieu, et 21 dans Luc. Et vous aurez une liste de signes. Alors il y a des signes divers, plusieurs viendront sous mon nom, ne les suivez pas. Ça paraît évident, mais il faut le répéter, bien sûr, si le Seigneur nous en parle, c'est que c'est important, hein. Il y a des gourous. Mais le Messie, lui, la deuxième fois, il revient du ciel, hein. Il ne sera pas sur la terre, c'est une évidence, mais bon, pour nous qui le savons, ça va, pour les autres, ils peuvent être trompés. Vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, ça c'est l'actualité de tous les jours, ça, hein. On n'est pas surpris, on le voit. Il y aura de grands tremblements de terre. Là, ça commence à parler quand même aux hommes. Hein. Ils commencent là, depuis 2 ans, là, quand même, entre Haïti l'année dernière, là, le Japon, ça commence à devenir assez régulier, puis assez impressionnant. Et pourtant, les sismologues, les scientifiques eux-mêmes, disent, mais on en attend un pire que ça. Ils attendent le Big One. Et vu que c'est exponentiel dans les échelles de tremblements de terre, pour vous donner une petite idée, celui qu'ils attendent, les scientifiques, hein, je ne vous parle pas de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est ce que les hommes de science attendent dans le Pacifique. C'est un tremblement de terre 200 fois plus violent que celui du Japon. 200 fois. 10,5. Alors vous imaginez les dégâts. D'autres signes en divers lieux, des pestes, des famines. Et toutes ces choses, on les a sous nos yeux, on le voit. Il y aura des phénomènes terribles. C'est des choses que l'on voit, que l'on regarde. Il y a aussi, on mettra la main sur vous pour servir de témoignage. Ça existe aussi. Nous avons cette chance en France d'avoir encore la liberté de se réunir, mais qui dit qu'il viendra un temps où cela deviendra impossible ? On sera peut-être obligé de se cacher. On ne sait jamais, hein, ce qui peut survenir. Puis dernièrement, j'entendais aussi, ça c'est vraiment incroyable, il y a au Canada, soi-disant des chrétiens qui auraient prévu le retour du Seigneur pour le 21 mai 2011. Quelle folie ! Quelle folie ! Le Seigneur lui-même nous dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Et ils sont en train de mettre une date. Mais quelle folie ! Et ils se disent chrétiens ! Il faudrait qu'ils relisent la Bible, quoi. Pareil aussi, la fin du monde en 2012. Ça, rassurez-vous, hein, c'est du cinéma. Hein. Non, c'est pas parce qu'il y a des hommes qui avaient mis un calendrier incomplet que le monde va s'arrêter. Le Seigneur revient, il va régner au moins 1000 ans. Donc, il y a encore un peu de temps devant nous, vous inquiétez pas, il a toute capacité pour rétablir toute chose. Il n'y aura pas de problème d'écologie, pas de problème de ressources. Non, non, le Seigneur est tout puissant de ce côté-là. Et puis, toutes ces choses-là que l'on a lues concernent la terre, donc ça, les hommes, c'est à leur portée, ils réalisent. Ils se disent, bon, on peut peut-être faire des efforts, on peut peut-être prévoir, on peut peut-être annoncer, on peut peut-être gérer ces choses-là. Et l'homme, dans son orgueil, est toujours pareil, il croit pouvoir trouver des solutions sans Dieu. Si on pouvait faire sans Dieu. Dans nos vies, ça a été comme ça, on a essayé de faire sans Dieu pendant des années, puis tout d'un coup, on a eu besoin de Dieu parce qu'on ne savait plus faire. Et c'est ce qui nous a sauvés, parce que lui seul peut le faire. Et puis dans Luc, c'est très très précis, hein. Il y aura des signes aussi dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et là, je pense que les hommes vont avoir peur. Et c'est ce qui est dit, hein. Ils ne sauront les nations, de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur, c'est-à-dire mourant, au bruit de la mer et des flots. Donc ce sera certainement très impressionnant. Voilà, et là, ces signes-là, je pense que ça va interpeller les hommes en disant, ça, on ne peut plus faire, quoi. Si jamais on a une comète qui vient de nulle part, un astéroïde qui nous frappe, là, on ne peut plus faire, quoi. Là, on ne sait pas faire. On ne peut pas prévoir. Et en fait, on ne sait pas faire. Donc là, je pense que ce sera encore des signes qui seront encore plus vivants pour le monde afin qu'il se tourne encore vers Dieu. Nous aurions pu parler, bien sûr, de l'enlèvement lui-même. Et là, vous pouvez relire Thessaloniciens. Vous avez des choses très précises concernant la dernière trompette, concernant les morts en Christ, tous ceux qui sont morts en Christ, qui vont ressusciter les premiers. Et puis nous, les vivants, qui attendons le retour du Seigneur, alors nous serons enlevés avec eux sur les nuées afin d'être toujours avec le Seigneur. Et puis, il y a aussi des signes spirituels, bien entendu. Cet évangile qui doit être annoncé par tout le monde. Ça vient, hein, c'est bientôt. Hein. Qu'est-ce qui reste comme pays qui n'est pas ouvert à l'évangile? La Corée du Nord? Et pourquoi croyez-vous qu'il y ait autant de chrétiens en Corée du Sud? C'est pour faire tomber ça. C'est pour que la Corée du Nord s'ouvre. Et ça, je pense que ce sera un signe pour l'Église de Jésus-Christ, pour les temps de la fin, parce que le jour où ce mur-là va s'abattre, alors là, oui, on pourra dire que l'évangile a été prêché par toute la terre. Et là, ce sera encore un accomplissement de la parole de Dieu. Il y a bien sûr la charité du plus grand nombre qui se refroidit, ça on le voit tous les jours. Dans l'évangile de Pierre, dans 2 Pierre, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Ça fait si longtemps. Ça fait 2000 ans que les chrétiens nous bassinent en nous disant que le Christ revient, que Jésus revient, qu'il est à la porte. Ça fait 2000 ans et c'est toujours pareil. C'est toujours pareil sur cette terre. Mais non, ce n'est pas toujours pareil. Ça s'aggrave et ça vient. C'est là, à la porte. Il y a aussi l'évangile de, enfin, la lettre de Timothée qui nous donne une description incroyable de notre société. Si vous reprenez tous les termes, c'est d'une précision redoutable. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps mauvais. Car les hommes seront égoïstes. Et l'Esprit Saint commence par ça. Les hommes seront égoïstes. Et on voit bien que c'est la caractéristique, mais je dirais essentielle. C'est la première, quoi. D'où découlent toutes les autres. Amis de l'argent, c'est notre société, ça. On regarde autour de nous, on le voit. Fanfaron. On va se débrouiller tout seul. Hautain. Blasphémateur, ça, combien de fois on l'entend. On a des gens qui construisent une maison juste à côté de chez nous, là encore. Ils avaient des problèmes de clous ou de marteau, ils étaient en train de blasphémer, là, en train de faire leur poutre. Les pauvres. À quoi ça sert d'invoquer Dieu de la façon dont ils le font? Il ferait mieux de leur demander un coup de main. Insensibles, irreligieux, rebelles à leurs parents, ingrats, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, et ça on le voit dans les religions, et ça c'est quelque chose qui va monter aussi, c'est le signe des derniers temps, cette espèce de grand amas de religions où tout le monde va être d'accord, Oui, éventuellement, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un Dieu, mais bon, les hommes vont se débrouiller avec la religion quand même, hein. La religion, elle est là pour ça. Et tout le monde va se rassembler là, et puis de cette espèce de grande prostituée, comme dit l'Écriture, sortira l'Antichrist, le fils du diable. Hein. Donc ça, c'est des choses qui ne nous surprennent pas. Donc ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient celui qui en fait la force. Ils ne reconnaissent ni Jésus et ni l'Esprit Saint en tant que force de l'Évangile. Et le conseil qui est donné là dans l'Écriture, c'est « éloigne-toi de ces hommes-là ». Ces hommes qui sont comme ça, éloigne-toi. Toi, ton témoignage, tu le conserves. Ils peuvent voir ton témoignage. Ils peuvent être touchés par tes paroles, mais toi, sois pas ami avec eux. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mais entre les deux, parce que là, on a parlé un petit peu de l'enlèvement, un petit peu des signes avant et tout ça, avant-coureur, telle façon qu'on soit prévenu, telle façon qu'on soit dans l'attente. Entre les deux, il faut que nous, on soit prêts. Il paraît évident que si sur l'invitation de votre mariage, et que vous soyez la fiancée, c'est marqué le 8 mai, par exemple, il faut que le 8 mai, vous soyez là. Ça paraît évident. Si vous arrivez le 9, ce sera trop tard. Si vous arrivez le 7, ce sera aussi pas la bonne date. Donc il faut que l'on soit prêt. Et Jésus nous a dit qu'il nous avait tout annoncé d'avant justement pour que l'on se tienne prêt, que l'on soit prêt pour ce grand jour-là où il vient nous chercher. Veillez, priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et comment être prêt? Comment effectivement nous tenir prêt pour ce Seigneur de gloire qui vient nous chercher, nous en tant que son épouse? Il vient chercher son épouse. C'est une position incroyable. Moi, je me rappelle d'un serviteur de Dieu, pour ceux qui le connaissent, il était de Normandie, Monsieur Papaïs, et puis il nous avait invités juste à manger chez lui. Et puis au bout d'un moment, il y a toujours ça de temps en temps avec les couples, hein, il y a la position de l'épouse, la position du mari, et puis il titillait un petit peu son épouse sur sa position, quoi. Puis au bout d'un moment, je lui dis juste, mais j'étais tout jeune converti, hein. Je lui dis, mais un jour, on sera tous l'épouse aussi, hein. Et puis alors, il s'est arrêté, il m'a regardé, il me dit oui. Oui, oui, on aura cette position d'épouse. Et la position d'épouse, elle n'est pas méprisable, hein, quand on le voit par rapport à Christ et l'Église, par rapport aux conseils qui sont donnés entre les maris et les femmes. Cette position dans le couple, elle n'est pas en dessous, hein. La position d'épouse, elle est au même niveau, mais avec ses prérogatives, avec sa fonction, avec tout ce qu'il fait, sa joie, la joie du bien-aimé. Il y a trois exemples dans l'Écriture d'enlèvement qui vont nous enseigner pour savoir comment être prêt. C'est des choses très simples. C'est des choses, avec Dieu, c'est toujours simple. Il y a bien sûr Hénoc, on le trouve dans la Genèse. Il y a Élie, qui est enlevé avec ses chars de feu, là, devant le regard d'Élisée. Et puis il y a Jésus, bien sûr, pendant qu'il parlait à ses disciples. Et on voit que c'est trois personnes-là, ces trois types d'enlèvements qui sont cités dans l'Écriture avant le nôtre. On voit que Hénoc, il a marché avec Dieu 300 ans. Il marchait. Hénoc, il ne courait pas avec Dieu, il ne courait pas devant Dieu, il marchait tout simplement avec Dieu, humblement. Il avait sa place, il avait cette relation, cette intimité avec Dieu, il marchait. Et c'était un témoignage vivant. Il n'avait pas besoin de dire grand-chose. D'ailleurs, dans l'Écriture, il y a très très peu de choses concernant Hénoc. On retrouve simplement à la fin de l'Écriture qu'il avait reçu le témoignage en lui-même qu'il était agréable à Dieu. Donc il était agréable à Dieu et il s'attendait à rien, il ne savait pas qu'il pouvait être enlevé. Hein. Personne avant lui n'avait été enlevé, hein. Adam est mort, les autres sont morts, mais lui, il ne fut plus, Dieu l'avait pris. Tout le monde l'a cherché, il n'était plus là. Élie, pareil, on voit qu'il marche avec Élisée, toujours pareil, c'est des hommes d'action. Ils sont là dans leur vie classique, ils marchent. Ils ne sont pas dans l'attente, ils ne sont pas murés, ils ne sont pas à l'écart. Non, non, ils sont dans leur vie classique, ils marchent. Et ils marchent avec Élisée. Élisée lui fait une demande très particulière. Et en fait, à ce moment-là, effectivement, il est enlevé avec ses chars de feu. Et puis Jésus, pareil, il a marché jusqu'au sommet du mont des Oliviers, tout près de Jérusalem, en face du temple. Et pendant qu'il parlait, toujours pareil, il est en train de parler, il n'avait pas terminé, pendant qu'il parlait, il fut enlevé jusque sur les nuées. Et donc on voit bien que ces trois types d'enlèvements nous montrent que pour être prêt, le mieux, c'est de ne pas rester assis. Le mieux, c'est d'être debout et de marcher tranquillement avec notre Dieu. Il n'y a pas des choses extraordinaires à faire. On n'a pas des choses extraordinaires à faire avec Dieu. Il a tout fait, il a tout accompli. Mais par contre, il nous demande simplement d'avoir ce cœur prêt, ce cœur attentif, ce cœur qui l'attend. Et il suffit simplement que notre témoignage, il soit en marche. On marche, on témoigne. Je vous propose une lecture dans Matthieu, au chapitre 25. Toujours l'évangile. Vous verrez tout à l'heure, on ira un peu ailleurs, mais c'est vrai que l'évangile est tellement riche, tellement précieux. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, il nous a parlé par le Fils. Et quand le Fils parle, ça a du poids. Au chapitre 25, versets 1 à 13, on le connaît bien ce passage. C'est juste après justement ce chapitre sur les signes. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » C'est étonnant, hein, on voit 10 vierges qui sont au courant des choses. Vierges nous parlent de gens qui se sont certainement lavés, purifiés, qui ont peut-être pris le baptême. Elles attendent le Seigneur, elles sont au courant. Elles ont des lampes, donc ta parole est une lampe à mes pieds, donc certainement qu'elles connaissent, elles savent ce qu'il y a dedans. Et on voit qu'au milieu de la nuit, parce que les temps sont difficiles, parce que la nuit vient sur le monde, parce que les ténèbres sont là et qu'elles sont de plus en plus épaisses, toutes, les 5 folles, les 5 sages, toutes, elles s'endorment. Et il ne faut pas se raconter d'histoire, je crois, entre nous. On s'endort tranquillement dans les choses de Dieu. On a l'impression que ça ira bien pour après. L'Église est là en train de s'endormir gentiment. Pourquoi ? Parce qu'elle est tranquille dans son coin, qu'elle n'est pas persécutée. Pourquoi elle s'endort ? C'est parce que, tout compte fait, vu l'état du monde, on n'est pas si mal, quoi, tout compte fait. Hein. Et en fait, Dieu ne voudrait pas que l'on raisonne comme ça. Non, non. Il voudrait réellement qu'on puisse se tenir éveillé. Parce que quand on se tient éveillé, on voit des choses glorieuses. Quand on se tient éveillé, comme l'ont fait les disciples sur la montagne de la Transfiguration, ils ont vu Jésus en gloire. Il s'était tenu éveillé à ce moment-là. Il ne s'était pas endormi. Mais c'est la vérité, et l'Écriture nous en parle, y compris dans les lettres aux Églises, dans l'Apocalypse. L'Église s'endort dans les derniers temps. Elle se croit riche, en fait, elle est pauvre. Elle croit voir les choses, et en fait, elle est aveugle. Elle se croit bien habillée, en fait, elle est nue. Et en fait, le Seigneur lui propose de pourvoir à tous ses besoins. Il n'est pas là en faisant que des reproches, et en disant « mais tu avais qu'à ?» Non, non, il nous propose toutes ces choses. Il a tout à notre disposition, telle façon que l'on puisse paraître devant lui, vêtu, voyant clair, réveillé, pur, sans tâche, il a tout pourvu à nos besoins. Et puis il y a ce cri dans la nuit, hein, on l'a lu ensemble. Et puis qu'est-ce qui fait la différence entre les 5 et les 5 ? Les 5 sages et les 5 folles, c'est juste l'huile. ils avaient exactement la même chose, hein, ils attendaient la même chose, ils étaient prêts pareil, mais il y avait juste l'huile qui manquait. Nul, s'il ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est très clair, c'est très précis. Il nous faut naître d'eau et d'esprit. Parce que si nous n'avons pas ces deux choses-là, nous ne pouvons pas tenir, nous ne pouvons pas être prêts et nous ne pouvons pas entrer. Donc quel désastre. L'huile, bien sûr, nous parle du Saint-Esprit. Cette onction qui nous enseigne toutes choses, cette onction qui vient d'en haut, cette onction qui est en nous, qui est pour nous, qui est le consolateur, qui nous aide à marcher, qui nous aide à persévérer, qui nous aide à tenir lors de l'épreuve. Quand l'épreuve viendrait comme un fleuve, j'ai donné ce témoignage, enfin ce verset-là, à une sœur qui était passée dans une drôle d'histoire, et elle avait été ébranlée dans sa foi, une jeune convertie de 5 ans, et elle était ébranlée, elle savait plus, elle pleurait tout le temps en se disant « Mais Seigneur, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive ?» et tout ça. Et en fait, quand l'épreuve viendrait comme un fleuve, c'est-à-dire l'ennemi qui vient là comme un fleuve pour engloutir, pour tout balayer, même ta foi, il arrive et puis il veut tout balayer, l'Esprit de l'Éternel lèverait un étendard contre lui. Et quand l'Esprit lève l'étendard, alors là, je peux vous dire que l'ennemi, il s'enfuit, lui, parce qu'il ne peut pas tenir. Oui, nous avons besoin de lui pour tenir ferme jusqu'au bout. Nos forces, elles ne sont que faiblesse. Nos résolutions, elles ne sont que des promesses impossibles à tenir. Si nous laissons l'Esprit faire ces choses en nous, c'est la vie qui vient en nous, c'est la vie qui nous donne capacité de vaincre ce qui est mortel. Si nous voulons faire mourir les choses, elles reviendront toujours. Vous savez, si vous laissez une racine de mauvaise herbe dans la terre, vous pouvez être sûr qu'elle va repartir. Par contre, si vous attaquez la racine, alors là, vous pouvez être sûr que vous êtes tranquille, débarrassé. Et avec le Saint-Esprit, tout est à la lumière, notre cœur est ouvert, il arrive là-dedans, il balaye tout, les racines d'amertume, ces petits péchés-là qu'on a laissés dans un petit coin, qui nous empoisonnent la vie. Là, on était dans notre garage hier, là, avec mon épouse, et puis tout d'un coup, elle me dit « Ah bah tiens, il y a une abeille !» Mais en fait, c'était une guêpe qui était prisonnière dans une toile d'araignée. Bon, un fil d'araignée, c'est pas grand, hein. C'est tout fin. Bon, c'est très résistant, hein. C'est plus résistant que n'importe quel matériau que l'homme sait faire, mais c'est tout fin. Hein. Et en fait, elle a dû d'abord passer un seul fil. Hein. Donc la guêpe a dû se dire « Un seul fil, je suis une guêpe !» Et puis elle en a fait un deuxième, un troisième. Et puis là, elle n'arrivait plus, la pauvre guêpe. Elle était prise. Et avec le péché qui nous enveloppe si facilement, comme dit l'Écriture, de temps en temps, hein, rejetons toutes ces choses-là, le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Laissons pas le premier fil, le deuxième fil, parce qu'arrivé au troisième ou au dixième, on ne pourra plus faire. Et là, on a besoin de crier à Dieu pour être délivré. Celles qui ont l'onction, qui ont eu cette huile, cette petite réserve d'huile, oh, c'était peut-être qu'un lumignon qui fume, comme dit l'Écriture, mais il y avait une petite réserve d'huile. Donc la lampe, elle a tenu bon toute la nuit. Dans les ténèbres, la lampe, elle a tenu bon. Vous arrivez dans une pièce sombre, il suffit de craquer une allumette. Hein. La pièce n'est plus sombre, les ténèbres s'enfuient. Une toute petite allumette suffit à faire fuir les ténèbres. Une toute petite goutte d'huile suffit effectivement à chasser les ténèbres. Pour les autres, quel désastre, quelle désillusion. Ils connaissaient tout. Ils étaient au courant de ce qui se passait, de ce qui allait arriver. Ils étaient invités, ils avaient ouvert l'invitation, ils avaient tout lu, ils pensaient avoir tout fait. Et puis en fait, bah, ils n'avaient gardé qu'une religion, quoi. Ils avaient oublié l'essentiel, celui qui en fait la force. C'est-à-dire qu'ils avaient une apparence de piété, mais ils n'avaient pas celui, ils n'avaient pas l'huile, ils n'avaient pas celui qui pouvait effectivement en faire quelque chose de différent, quelque chose de vivant. Et la réplique du Seigneur, elle est cinglante, elle est terrible, mais elle est vraie, on est obligé d'en parler. Je ne vous connais pas. Et l'important dans nos vies, ce n'est pas que l'on connaisse beaucoup de choses de Dieu, que l'on connaisse bien Dieu. Plus on avance, plus, entre guillemets, il y a des choses à connaître de lui. L'important, c'est que ce soit lui qui nous connaisse. Si lui nous connaît, alors même si j'ai une toute petite foi, gros comme un grain de sénévé, si je suis pas terrible, je me sens bien faible, j'avance comme je peux, je suis trop âgé, donc vous comprenez, je ne fais pas grand-chose. Oh, des chrétiens et des hommes de foi âgés, dans l'Écriture, on a de beaux exemples et des exemples très parlants de ce que c'est qu'une vie avec Dieu, une vie réelle avec Dieu. Ce n'est pas faire du froufrou, ce n'est pas faire des grands discours, ce n'est pas faire des grandes paroles, ce n'est pas avoir des témoignages tonitruants, ce n'est pas faire du bruit. Non, le vrai témoignage, ceux qui sont connus de Dieu, c'est des gens qui marchent humblement avec leur Dieu. On ne les entend pas souvent. Hein. Je me rappelle, je ne sais pas, vous l'avez peut-être lu dans le témoignage de David Wilkerson. À un moment, il fait cette prière à Dieu. « Mais Seigneur, montre-moi ton église, montre-moi ton épouse, ceux qui t'appartiennent. » Et en fait, le Seigneur lui dit « Tu veux vraiment que je te montre ?» Il dit « Oui, Seigneur, je veux. » Il dit « D'accord. » Et il l'a transporté en esprit dans une très grande assemblée. 2000 personnes. Le Seigneur est descendu de l'estrade avec lui, il est passé dans l'allée et il lui a dit « Tu vois, elle, c'est mon épouse. » Lui aussi, le vieux monsieur là, assis au troisième rang, c'est mon épouse. Et puis après, il est parti. Seigneur, c'est tout. Il a été dans une autre assemblée, toute petite assemblée. Là, tu vois cette famille-là, avec leurs enfants, là, sur le banc. C'est mon épouse. Là, cette vieille dame, là aussi, dans le fond, elle, c'est mon épouse. Et puis, il l'a encore emmenée. Et puis, il a été dans une baraque en tôle en Afrique. Et puis, il regardait l'estrade, mais il n'a pas considéré ni les serviteurs de Dieu, ni ceux qui apportaient la parole, ni ceux qui étaient assis sur l'estrade. Il s'est retourné et il a encore été dans les rangs. Et il a montré encore 2-3 personnes comme ça à David Wilkerson. Et c'est là qu'il a compris que l'Église de Christ, elle est pour l'instant cachée, elle est parmi nous, mais ce qui est important, c'est que l'on soit tous prêts. Moi, je ne veux pas être laissé là sur un siège. Je ne veux pas être laissé là sur un siège et que le Seigneur passe devant moi en disant, lui, il ne fait pas partie de mon épouse, ce n'est pas possible. Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, tu m'as racheté. Seigneur, je veux être prêt pour ce jour-là. Je vous propose une deuxième lecture qui va vous parler encore de cette préparation dans le Cantique des Cantiques. Alors, il est parfois pas très simple à trouver, mais vous prenez les psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, et c'est juste après. Cantique des Cantiques, au chapitre 4, verset 16. Donc juste avant le chapitre 5, Cantique des Cantiques, tout près du chapitre 5. C'est un chant d'amour, c'est extraordinaire et je vous invite à le relire, c'est quelque chose qui nous encourage. Il y a cette relation entre l'époux, le bien-aimé, la fiancée, l'épouse, il y a tous ces traits de caractère pour ceux qui ont été fiancés un moment, pour ceux qui sont mariés maintenant, on retrouve de ces choses. Quand on était fiancé, moi je me rappelle, j'avais une réunion de famille en Normandie, j'avais été capable de faire 4 heures pour arriver à 23 heures le soir, il n'y avait pas de problème pour passer un petit peu de temps avec mon épouse Evelyne. Il n'y avait pas de souci, il fallait que je passe un peu de temps, c'était bien parce que c'était ma vie et on était capable de faire des choses incroyables. Je pense que ça rappelle des souvenirs à chacun. Que mon bien-aimé entre dans son jardin, qu'il mange de ses fruits excellents. J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Car ma tête est couverte de rosée. Mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé, je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. » Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes des murs. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous ? Que je suis malade d'amour. Le bien-aimé est la fiancée. Et on voit, elle est aussi endormie, elle. La Bible se répète, la parole de Dieu se répète, endormie encore. Mais son cœur veillait. Il y avait une petite goutte d'huile dans le cœur. Son cœur veillait. Il y a la voix du bien-aimé qui est à l'extérieur, qui frappe. « Ouvre-moi, ma parfaite, ma colombe, ma sœur. » Tout cet appel à l'amour, à venir le rejoindre. Et on est étonné de la réaction de la Sulamite, de la fiancée, qui est là en train, dans son lit, de se dire « Mais j'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je ? Je me suis baigné les pieds, je me les suis lavés, comment les salirai-je ? » On a une femme là, qui est en train de se regarder le nombril. Elle est en train de se dire « Oui, mais faudrait que je fasse comme ça, je ne suis pas prête, comment je vais faire ?» et tout. Alors que le bien-aimé est à la porte. Il est juste derrière la porte. Celui qu'elle aime est juste derrière. Et elle est en train de se regarder, elle, en disant « Oui, mais je ne suis pas prête, comment je vais faire ? J'ai pas tout mis. » Et alors que le bien-aimé est juste là en train de l'appeler, quoi. Et combien de fois on est comme ça, à donner un peu de temps, alors que, en fait, celui qu'on aime est juste là. Allons nous jeter dans ses bras, et après on verra bien ce qu'il nous dira. Et tout d'un coup, elle réalise quand même que le principal est là, que le bien-aimé est à la porte. Donc là, on voit bien que mes entrailles se sont émues. Là, c'est son cœur qui parle. Ça y est, celui que j'aime, il est là. Bon, je m'occupe plus de ces choses-là, c'est futile. Je vais aller lui ouvrir. Hein, parce qu'en fait, il a fini par passer le bras. Là, c'était trop pour elle, quoi. J'irai, il est là, il me veut, quoi. Et en fait, elle se lève, elle ouvre. Et le bien-aimé est parti. Mais oui, cela nous parle, oui. Oui, tout à fait. Jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier temps. Le bien-aimé, lui, on le trouve dans le Cantique des Cantiques. Il va sur les collines, sur les montagnes. Il est là toujours à l'extérieur. De temps en temps, il revient dans son jardin. Mais il est là à l'extérieur. Pourquoi ? Mais parce qu'il va chercher les dernières petites pièces de son épouse. Il va chercher les dernières brebis qui sont perdues. Il est toujours à l'œuvre. Il est toujours à l'extérieur. Et lui, il aimerait bien que sa fiancée vienne avec lui. Il aimerait bien qu'elle soit là aussi touchée par ceux de l'extérieur, qu'elle soit là à travailler avec lui. Il aimerait bien l'avoir tout simplement à ses côtés, marcher avec elle. Il a disparu. Et on voit qu'après, la bien-aimée, quand elle a voulu sortir pour aller le chercher, elle ne l'a pas trouvé. Et qu'en plus, les gens de l'extérieur l'ont blessé, l'ont frappé. Et ça nous parle de la fin des temps. Je pense que l'Assemblée, l'Église, l'épouse fidèle, elle sera méprisée, frappée, humiliée par le monde. Pourquoi ? Mais ça paraît évident, parce qu'ils ne nous aiment pas. On n'est pas du même monde. Nous, le Seigneur, nous a sauvés pour le ciel, et eux, ils sont de la terre. Et donc, ces choses-là, elles nous arriveront certainement, parce qu'effectivement, c'est comme ça que cela se passe. Et le dernier verset que l'on a lu ensemble, « Je suis malade d'amour », ça y est, là on sent, et d'ailleurs dans le Cantique des Cantiques, ça bascule directement, la bien-aimée, ça y est, elle a compris que le principal, c'était d'être avec lui. Le principal, c'était ça. Tout le reste n'avait aucune importance. Tout le reste, sa préparation, ses habits et tout ça, n'avait aucune importance parce que c'était le bien-aimé. Et si le bien-aimé vient la chercher, c'est qu'elle est prête, c'est qu'elle est parfaite, c'est qu'elle est pure, c'est qu'elle est présentable, c'est qu'elle est acceptable. Toutes ces choses, c'est lui qui le fait. Donc, il n'y a pas de problème. On retrouve un petit peu avant ces versets. Ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient, sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. On le voit, il y a quelque chose de joyeux, il y a quelque chose d'heureux, il y a quelque chose de en marche. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur. Il regarde par la fenêtre. Il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Et ça, c'est toujours l'appel du bien-aimé. En conclusion, j'aimerais vous lire dans Hébreux au chapitre 10. Et après, on fera une dernière lecture ensemble. chapitre 10, verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. » Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Je vous propose une lecture dans Thessaloniciens, je pense que le texte parle de lui-même, il n'y a pas besoin de le commenter. Thessaloniciens, chapitre 5. Et on va lire, alors ça va être assez long, mais tout est important, vous allez le voir. Chapitre 5, verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement, parlez de ces choses, entretenez-vous de ces choses, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et puis après, il y a quelques versets qui concernent des préceptes très très pratiques. Ce n'est pas des ordres du Seigneur, on voit que c'est des préceptes tout simples, mais qui nous permettent de marcher tranquillement. C'est des préceptes qui peuvent nous garder dans notre vie chrétienne, à l'égard des frères et des sœurs, qui nous permettent effectivement de consoler, qui nous permettent de prier sans cesse, qui nous permettent de marcher tout simplement, pas après pas, jour après jour, avec le Seigneur. Des ordres, des conseils qui donnent la vie. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. C'est vrai que les serviteurs de Dieu, ils doivent être entourés. Il faut qu'on les entoure. Il faut qu'on ait beaucoup d'affection. Bien sûr, c'est des hommes. Bien sûr, de temps en temps, ils peuvent dérailler, entre guillemets. Mais c'est des hommes. Ils peuvent avoir des mots blessants. Mais c'est des hommes. Ayons pour eux beaucoup d'affection, de telle façon qu'ils soient encouragés en toutes choses, qu'ils puissent être là, édifiés aussi par le petit troupeau dont ils ont la charge. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez, pas condamnez, pas jugez, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez, c'est-à-dire portez dessous les faibles. Alors ceux qui se croient forts, hein, mettez-vous en dessous pour supporter les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, entre nous, soit envers tous. Même avec ceux du dehors, il faut que l'on poursuive le bien. C'est comme ça que l'on sera connu de Dieu comme étant son épouse fidèle qui l'attend. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, favorable ou non, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Bien entendu, si on commence à se priver de l'huile, on est perdu. Ne méprisez pas les prophéties. Retenez ce qui est bon, nous dit l'Écriture. Bien sûr, les prophéties, c'est un homme qui parle poussé de la part de Dieu. Alors, de temps en temps, la prophétie pourrait être un tout petit peu plus courte. On se dit, tiens, il y a de la rallonge, là, c'est un petit peu... Mais retenez ce qui est bon. Ne jugez pas de la façon dont c'est apporté. Ne jugez pas si ça tremblote, si ça a un sens ou pas un sens, si c'est pas tout à fait... Retenez ce qui est bon. Ça, c'est important parce que ça, ça va vous édifier. Le reste va vous détruire. Les critiques, ça détruit ceux qui critiquent. Alors que retenir ce qui est bon, ça, ça nourrit, c'est bon. Examinez toute chose, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et puis, l'apôtre termine, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, c'est-à-dire sans aucun reproche, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là ce qui est merveilleux. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos forces, ce n'est pas nos promesses, ce n'est pas nos vœux au Seigneur qui le feront. C'est lui qui le fera en nous, mais il faut lui ouvrir la porte, il faut lui laisser faire l'œuvre, bien entendu. Donc laissons-nous saisir, laissons-nous aimer, laissons-nous serrer dans les bras par le Seigneur. Soyons attentifs à sa voix, afin d'être réveillés quand il va venir et qu'on va entendre ce cri dans la nuit, parce que les ténèbres arrivent. Voici l'époux, il arrive, il vient chercher son épouse. Et on va terminer juste dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse. Hein, les journalistes utilisent ce mot curieusement, il ferait bien en donner la traduction. Ce serait plus parlant, ça veut dire révélation. Voilà, Dieu se révèle, il révèle ce qu'il va faire dans la fin des temps. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Oui, amen, viens. Que celui qui entend dise « Viens !» Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt, amen. » Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble.